Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vous écoutez 6ème Science. J'ai un gros souci avec la physique quantique, les qubits et autres joyeusetés de l'infiniment petit. À chaque fois que j'y consacre un épisode de 6ème Science, j'ai l'impression de repartir de zéro. 4 mois plus tard, je sais plus qui fait quoi et surtout pourquoi. Et vas-y, que je rouvre Wikipédia et que je me farcie des vidéos YouTube avec des pattes à la place des électrons. Je vais le dire poliment, hein, cette boucle finit par être un peu vexante à la longue. Vous avez l'image de Sisyphe poussant son rocher en haut d'une colline pour aussitôt le voir dégringoler ? Eh ben c'est ça, retour à la case départ, vous ne savez toujours pas ce qu'est le boson de Higgs, vous ne gagnez pas 20 000 francs. Mais on peut aussi choisir de voir le bon côté des choses. Après tout, comme un système quantique, je peux être à la fois dans les deux états, négatif et positif. Alors soyons optimistes. L'avantage pour vous d'abord, c'est qu'on est au même niveau. On le sera à la fin de cet épisode. Et ça, c'est un gros avantage, vous allez voir, même pour moi. Une fois qu'on a convenu qu'on partait de loin, hein, le plus gros du chemin, c'est pas nous qui devons le faire. Car il ne sera pas dit que tous les vulgarisateurs sont égaux. Au fond, j'en sais à peine plus que vous, moi, dans cette histoire. Alors que c'est aux sachants véritables de descendre à notre niveau pour rendre accessible ce qui ne le serait pas autrement. Fin de compte, nous serons le petit rocher que notre Sisyphe devra pousser sur la pente de la connaissance. Fabrice, je te le dis en toute amitié. J'aimerais pas être à ta place aujourd'hui pour parler des batteries quantiques. Je manque d'ailleurs à tous mes devoirs en omettant de te présenter. Fabrice Nicot, tu es l'expert en sciences fondamentales du magazine Science et Avenir. Et tu dresses dans le numéro 924 un passionnant dossier sur les batteries quantiques. Je rappelle aussi que tu es l'une de mes victimes podcastiques préférées. Bonjour Fabrice.
Bonjour Romain.
Alors j'ai tout donné sur cette intro, hein. Je crois que j'ai réussi l'exploit de faire un hors-sujet total, hein, puisque j'ai à peine évoqué le sujet du jour, à savoir les batteries quantiques. Je me dis finalement, hein, en revoyant tout ça, que c'était pour mieux te laisser le soin de présenter ce qu'était une batterie quantique.
Oui, alors bravo pour cette intro, hein. Faut se souvenir que Camus disait « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et effectivement, les batteries quantiques, c'est une nouvelle dimension de la révolution quantique qui, après avoir révolutionné la physique théorique, arrive de plus en plus dans la physique bien pratique. Donc on parle souvent des ordinateurs quantiques, des capteurs quantiques, etc. Et maintenant émerge le concept de batterie quantique. C'est donc une batterie, c'est-à-dire quelque chose qui stocke de l'énergie et qui la fournit à la demande. Sauf que cette fois-ci, elle s'appuie sur une technologie complètement nouvelle à base de qubits.
Exactement, on les garde de côté, hein, ces petits qubits, on les évoquera un peu plus tard, on va les sortir du placard. Toi, tu ouvres ton dossier en parlant non pas de la technologie des qubits et de la façon dont on pourra demain mettre de l'énergie de côté. Tu évoques plutôt la technologie actuelle, hein, celle qui fait tourner nos batteries, les batteries de nos voitures, celles de nos téléphones portables. Et tu dis grosso modo que cette techno, elle est obsolète.
Oui, évidemment, obsolète, c'est un petit peu provocant, mais il y a énormément de recherches qui sont menées aujourd'hui sur les batteries lithium-ion. On le sait, il y a les enjeux pour l'automobile, etc. Mais quand on veut vraiment aller au fond du concept de batterie, on sait que ce sera forcément limité un jour. Parce que une batterie classique, aujourd'hui, elle fonctionne avec des ions, hein, qui sont des petites particules chargées électriquement, qui se baladent dans des électrolytes. Tout ça, finalement, il y a des facteurs limitants. Il y a une vitesse qui ne peut pas être augmentée, en l'occurrence, indéfiniment. Donc, pareil, on ne pourra pas rajouter toujours plus d'ions pour faire des batteries toujours plus grosses. Pour plein de facteurs qui sont purement physiques, mécaniques même, on pourrait dire, les batteries vont plafonner. Mmh. Si on veut changer la donne, il faut faire tabula rasa et passer à autre chose.
Moi, j'y vois deux choses un peu, je vais pas dire contradictoires, mais d'un côté, on nous annonçait un peu que les batteries au graphène, qui est une sorte de dérivé, et vraiment, j'emploie un gros mot, du carbone, c'était déjà un pas vers l'avenir de la batterie de demain. Et toi, tu nous dis qu'en gros, la batterie quantique, c'est quasiment, tu le dis, je pense, dans l'introduction de ton papier, une batterie qui est capable quasiment de se recharger instantanément.
Oui, c'est ça qui est excitant dans ce sujet, c'est que la batterie, comme tu dis, alors la batterie au graphène, tout ça, il y a plein de technologies qui se développent autour, mais on est sur un concept qui date du 19e siècle. Alors, on améliore des bouts, mais on est sur un concept qui date du 19e siècle. La batterie quantique, c'est un concept tout à fait nouveau, avec des résultats incomparables, puisque, effectivement, en théorie, une batterie quantique pourrait recharger votre téléphone portable instantanément. Vraiment instantanément. C'est-à-dire, on est de l'ordre de la nanoseconde. C'est spectaculaire. Et l'autre aspect très troublant, c'est que plus la batterie est grosse, en général, plus c'est long de la recharger. Et bien là, plus la batterie est grosse, plus elle se charge vite.
Bon, bah, le graphène, c'est une piste à explorer. Pourquoi pas? Mais tu nous dis qu'en gros, la révolution du quantique, en théorie, hein, puisque tout ça n'est encore que de l'ordre du concept, c'est une révolution actuelle. Et pourtant, le concept n'a été posé qu'en 2013. Ça veut dire que ça fait quand même un petit moment.
Oui, ça fait 10 ans, mais dans l'histoire des sciences, 10 ans, c'est très court. Hein. Il y a des théories qui ont été émises il y a une dizaine d'années, qui ont à peine émergé encore dans la communauté des chercheurs. Mais là, c'est effectivement des travaux qui ont été menés par Robert Alicchi et Marc Fannes. Robert Alicchi, que j'ai interviewé pour l'article, s'amuse un petit peu de ça parce qu'à la base, lui, c'était vraiment de la théorie. Et il avait une idée que je trouve d'ailleurs absolument géniale, c'est de se poser la question de la thermodynamique qui est une des disciplines reines de la physique, hein, qui étudie, on va dire pour simplifier, le comportement des molécules en moyenne. Hein, la thermo, c'est ce qui permet de savoir pourquoi un gaz s'échauffe quand on le comprime, etc. On ne sait rien.
C'est des ensembles.
Voilà. Mm. On ne sait rien de la molécule proprement dite, mais on sait décrire le comportement de l'ensemble. Et Alicchi, il s'est demandé, bah, qu'est-ce qui se passe si j'applique les lois de la thermodynamique sur...
L'infiniment petit. Ouais.
Voilà, l'infiniment petit, la physique quantique. Et en plus, c'est logique, puisque les molécules dont s'occupe la thermodynamique, c'est en réalité dans le domaine de la physique quantique, c'est tout petit. Et donc, il s'est dit, bah, qu'est-ce que ça donne? Quel type de résultat on peut avoir? La question est-elle même pertinente? Et il a mis en évidence un phénomène qui est la superabsorption. En gros, c'est que des particules ensemble vont effectuer, pour simplifier, une tâche plus rapidement que la particule seule.
Ce qui paraît plutôt logique. En soi, si jamais tu réunis plusieurs hommes, ils effectueront ensemble, on parle d'une tâche qui est réalisable à plusieurs, hein, plus rapidement qu'un seul homme.
Exactement. Mais là où la physique quantique nous surprendra toujours, c'est que tu peux dire, bah oui, si j'ai 10 bonhommes, ils vont bosser plus vite. Mais ce qui se passe en physique quantique, c'est que les 10 bonhommes vont tous bosser 10 fois plus vite. Et ça, c'est pas du tout intuitif. Ils vont accélérer chacun, individuellement, pour produire au final, une tâche plus rapide. Ce qui se passe réellement dans l'effet de superabsorption, si on imagine que c'est absorption, on comprend bien, hein, tu as un atome, il reçoit un photon, il l'absorbe et il met un certain temps à l'absorber. Pareil, une nanoseconde, c'est toujours très rapide, ces phénomènes-là. Si tu as 10 atomes, ils vont absorber chacun les photons 10 fois plus vite, chacun. Comme si le fait d'être ensemble, ça, ils avaient une émulation, là, hop, ils bossent plus vite. Et ça, c'était pas attendu. Et à la base, Alicchi n'imagine pas d'ailleurs tout de suite une application. Là, il m'a dit que ça l'amusait beaucoup parce qu'il est considéré un peu comme un pionnier, alors que lui,
c'est... Il tâtait le terrain, quoi.
Oui, il a dit, mon article, c'est de la physique mathématique.
Je bug quand même déjà sur ce premier concept. Donc, dans le conducteur, moi, j'avais noté un exemple, on va dire, avec des marins hein, qui se retrouvent à écoper. Donc, soit on met un marin sur le pont et on lui dit, bah, il va mettre un temps T pour écoper, ouais. Hein, on va dire une quantité donnée. On met 10 marins ensemble, on va les mettre dans un conteneur posé sur le bateau, ils vont écoper dans un temps T divisé par 10. C'est-à-dire, ils sont 10 pour effectuer le travail qu'aurait effectué le marin seul dans un temps T. Mais toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est des marins quantiques et qu'ils vont tous être 10 fois plus rapides oui. que le marin seul. Donc, en gros, ils vont pouvoir écoper...
Ils vont être encore beaucoup plus efficaces.
Fois plus... Ouais, c'est
oui,
ça.
100 fois, c'est ça.
Alors, mais je ne comprends pas pourquoi.
Ah, mais ça, c'est le charme de la physique quantique. On l'observe. Après, expliquer dans le détail comment ça marche, on ne le sait pas. On l'observe. Quelque part, moi, j'ai posé les questions, notamment à des physiciens théoriciens, notamment Carlo Sertori, qui est à l'École normale supérieure. Il donne une explication qui est statistique. C'est-à-dire que tes marins, s'ils sont quantiques, on ne peut pas les distinguer. Et en réalité, tout ce qu'on peut observer, c'est qu'ils vont travailler 100 fois plus vite. Et comme tu ne peux pas distinguer les uns des autres, forcément, chacun
travaille
10 fois plus vite.
Ok.
Tu ne peux pas distinguer.
10 fois 10, ça fait 100.
Voilà. C'est pour ça qu'il dit en rigolant, le monde quantique, c'est la démocratie exemplaire, puisqu'il n'y a vraiment aucune distinction possible entre deux électrons ou entre deux atomes.
Bon, il faut qu'on ait posé ça. Ce que j'accepte, c'est de se dire, on observe et on ne sait pas forcément l'expliquer. Ça, pour moi, c'est facile à comprendre. Mais dans la pratique, ça se vérifie donc très concrètement que, on va dire, l'absorption donc des photons, hein, des particules lumineuses par les atomes, elle est 10 fois, ou en l'occurrence là avec nos marins, 100 fois plus rapide que s'il n'y avait qu'un seul atome au lieu de 10 réunis hein, dans une unité, on va dire. Ça, il l'observe.
Il l'observe. C'est notamment l'expérience dont je parle dans l'article là, de James Quash, qui a publié ça en 2022, mais il continue et il va sans doute publier dans peu de temps des résultats un peu identiques. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a testé cette propriété sur des molécules d'un colorant. Il a testé ça quand même sur 10 puissance 21 molécules. Et il a observé que s'il envoie des photons, des petites particules de lumière sur cet amas de luminogènes, je donne le nom, mais bon, c'est pas très grave, ils vont effectivement absorber tous ces photons très vite, quasi instantanément, et beaucoup plus vite que sur un échantillon bien plus limité et en théorie même qu'une molécule. Ils ont observé ce phénomène si surprenant, si déroutant. Ils ont vérifié que c'était observable sur des molécules qui pourraient être utilisées dans un cadre industriel. C'est là où on bascule et que ce n'est pas un article de science-fiction ou de physique théorique. C'est qu'on voit qu'on pourrait commencer à s'approprier cette propriété et sa propriété miroir, qui est la super-radiance, qui est l'équivalent.
C'est la restitution.
La restitution.
Donc, ce que tu nous dis, c'est que ce test, il est très concret, mais tu écris qu'il faudrait multiplier par 1 milliard au moins le nombre de molécules en jeu pour qu'on obtienne, on va dire, une puissance électrique intéressante.
Voilà, et qui serait encore relativement faible. Hein. Et c'est pour l'instant la limite des batteries quantiques qui font qu'on ne va pas les avoir tout de suite.
Dans nos téléphones dans nos ou téléphones. Dans nos voitures.
Parce que c'est le problème avec la physique quantique, on parle d'atomes, de molécules, d'individualité pratiquement. Et forcément, un atome, ça stocke pas beaucoup d'énergie. Donc il faut beaucoup, beaucoup d'atomes ensemble ou de molécules. La 10 puissance 21, ça nous paraît énorme, mais en fait, c'est pas tant que ça. Cela dit, James Quash me disait qu'ils envisagent de multiplier par 1 milliard le nombre de molécules. C'est pas si compliqué que ça. Hein. La difficulté, c'est que c'est de la physique quantique et en gros, il faut parvenir à éviter ce qu'on appelle la décohérence de ces molécules. C'est-à-dire, en gros, elles sont comme harmonisées entre elles. Et il faut qu'elles soient parfaitement isolées de tout pour pas perdre cette harmonie, entre guillemets, qui les lie toutes. Okay.
Bon alors, si jamais des chercheurs nous écoutent, déjà, merci. Mais je risque de dire une très grosse ânerie, auquel cas, déjà, je vous prie de m'excuser, mais sinon, vous pouvez me faire un mail à audio@20minutes.fr. Moi, j'avais compris ça comme ça dans ton article. C'est que, en gros, pour que les règles un peu magiques de la physique quantique s'appliquent, il faut que les éléments qu'on étudie et qui constituent la batterie fonctionnent dans un environnement, mais ultra préservé des règles, on va dire, classiques de la physique. Et c'est ça que tu dis, quoi. En gros, il faut que les choses soient vraiment isolées parce que dès l'instant où, je sais pas, on commence à les rapprocher des règles classiques, eh ben, elles perdent leurs propriétés un peu magiques et ça devient un peu le dawa.
Voilà, parce qu'en réalité, le propre de la physique quantique, c'est que notamment les systèmes quantiques, ça peut être une molécule, mais ça peut être autre chose, peuvent être dans plusieurs états simultanément. Ça, c'est vraiment une signature de la physique quantique. Mais pour que ce soit possible, il faut que rien n'interagisse avec l'objet. Parce qu'à partir du moment où on interagit, on force, entre guillemets, l'objet à choisir son camp.
Comme le chat de Schrödinger.
Comme le chat de Schrödinger. On ne peut pas avoir un objet à la fois dans deux états. On ne le conçoit pas. Donc, il faut effectivement que les molécules, l'ensemble, soient extrêmement isolées pour éviter ce qu'on appelle la décohérence, la perte des propriétés quantiques. Et c'est d'ailleurs un point que Robert Alicki, le physicien d'origine, dit, pour lui, c'est un facteur limitant. Mais après, on peut tout à fait imaginer que des batteries qui seraient dans nos téléphones soient de fait isolées. Déjà, là, les batteries, nous, on ne passe pas notre temps à ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans.
Donc, si je te comprends bien, on reste sur des nanobatteries qui, peut-être demain, pourra alimenter nos téléphones. Mais est-ce qu'on ne peut pas tout simplement connecter des tonnes de mini batteries entre elles pour former une plus grande ?
Là, non, parce que pour l'instant, le volume d'énergie stockée est vraiment très faible, en fait. Et pareil, plein de batteries, ça veut dire aussi une isolation parfaite. Et par ailleurs, comment les faire collaborer entre elles, c'est compliqué. Par contre, vu la taille des objets qui stockent l'énergie, qui sont finalement des molécules, on peut tout à fait imaginer, là, donc, l'expérience de James Quash, c'est 10 puissance 21, mais on pourra imaginer en mettre beaucoup plus. Sachant que plus on en met, plus vite elle se recharge.
Ouais.
C'est ça qui est tout bénef.
Donc, je dois pas faire une croix encore sur la voiture rechargeable en 10 minutes, la voiture électrique.
Bah, une croix, non, faut être modeste, faut toujours espérer. Bon, clairement, c'est pas l'objectif pour l'instant des recherches qui sont menées, mais...
La porte est ouverte, théoriquement.
Bah, c'est ça, c'est ce qui me paraît le plus étonnant dans ce sujet. C'est la première fois qu'on imagine un nouveau concept de batterie qui n'est pas électrochimique.
Du coup, qu'est-ce qu'on utilise comme matériau potentiellement dans ces batteries?
Bah oui, bah, c'est ça qui est intéressant parce que...
Pas de lithium.
Ah non, non. L'idée, là, elle est très simple. C'est qu'il faut quelque chose qui puisse absorber de l'énergie, mais en quantité infime. Et l'énergie en question, elle est fournie, là, sous forme de photons de la lumière. Donc, n'importe quel atome est capable d'absorber un photon, puis de le restituer. Donc, en fait, c'est très large ce qu'on peut utiliser. Jim Quash, il a travaillé sur des molécules qui sont produites industriellement. Mais je cite une autre initiative, là, une start-up qui a été créée en Italie par Marco Pollini, là, qui est cité dans l'article, où eux, ils vont utiliser les recherches qui sont menées sur les ordinateurs quantiques. Mm-hmm. Ça tombait bien parce qu'au mois d'octobre, IBM a annoncé, a claironné, mais ils ont raison de claironner, qu'ils avaient mis au point un microprocesseur à 1121 qubits. Alors là, bon, on va dire, mais pourquoi...
Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport entre le stockage d'énergie et l'ordinateur quantique, qui est un peu le graal en matière de puissance de calcul?
Le qubit, dans un ordinateur quantique, c'est en fait simplement quelque chose qui peut avoir deux états différents ou même à la fois, 0 ou 1. C'est l'analogie quantique du bit en informatique. Actuellement, il y a plusieurs technologies de qubits qui sont développées pour ça. Tout ce qu'on veut, c'est un système qui peut être dans deux états différents. Donc, ça laisse le champ à plein de choses. Et certaines des technologies choisies, notamment, parlons par IBM, bah, les deux états différents, c'est des états d'énergie. Mmh. Ça pourrait être autre chose, en imaginant, ça pourrait être des couleurs, des charges électriques. Mmh. Mais là, ils ont choisi de l'énergie. Ils n'utilisent pas l'énergie. Eux, ce qu'ils utilisent, c'est 0 ou 1, c'est l'information, en fait. Marco Pollini, il se dit, ah, mais moi, après tout, un microprocesseur de 1121 qubits, ils sont tous chargés, ils sont tous en état 1, bah, c'est une batterie chargée.
Exactement.
Donc, on pourrait utiliser la recherche qui est menée sur ce sujet-là et qui est énorme.
C'est vrai que là, tu as évoqué quand même des grosses boîtes, hein, IBM typiquement, mais est-ce que ça veut dire qu'au-delà des chercheurs, il y a des financiers, des industriels qui se chauffent pour développer les batteries de demain?
Pour l'instant, c'est surtout un truc de laboratoire. Tous les gens que j'ai interrogés disent que c'est une technologie dans l'enfance, balbutiante, tout ce qu'on veut. J'ai interrogé, par exemple, le CEA,
le
commissariat à l'énergie atomique, qui est notamment partie prenante du plan France 2030 pour développer des batteries, etc. Donc, j'aurais dit, alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur la batterie quantique? Ils m'ont très poliment dit que ça ne les intéressait pas parce que pour eux, c'est trop loin d'une application. En gros, c'est un joujou de labo. Mais Marco Pollini et donc cette start-up, le Planckian, là, c'est très sérieux. Hein. Je donne le chiffre, je crois que c'est 2,7 millions d'euros. Ce qui se dit, c'est que c'est vraiment un nouvel aspect de l'application de la physique quantique aux technologies. Et ça, ça peut vraiment susciter des investissements. Et à partir du moment où les politiques et les industriels se tourneront vraiment là-dessus, ça peut aller très vite, sachant que les échelles de temps qui sont données pour obtenir des prototypes, c'est 5 ans. Ce n'est pas la fusion nucléaire où on dit c'est 2060. Là, c'est dans 5 ans. Et certes, ça ne va pas équiper les voitures tout de suite, mais imaginons déjà qu'on recharge un portable, tablette, une montre connectée instantanément. C'est un petit bouleversement, surtout que ça consomme moins d'énergie. Enfin, c'est...
Sans reposer sur des matériaux, des ressources
exactement,
rares,
sans lithium. Ça, c'est peut-être enthousiasmant. Hein. Je me souviens d'un des chercheurs, il m'a dit, vous vous rendez compte, vous ferez ça. Il a touché son chargeur qui était posé sur le tas. Il a dit, hop, voilà, c'est rechargé, en fait.
Impressionnant. Effectivement, ça évoque le côté un peu sans contact. Quoi. Tu poses ton téléphone juste sur le chargeur, tu n'as pas besoin de le brancher. Et en fait, tu l'as à peine posé qu'il était déjà chargé. Quoi.
C'est ça.
Tu as évoqué le chiffre de 2,7 millions, c'est les financements, c'est ça, récupérés par le chercheur italien
Oui, par Marco Pollini. Alors, c'est une équipe, ils sont quatre, pour l'instant fondateurs, plus quelques techniciens qui travaillent avec eux. Eux, ils sont en train de tester pour l'instant, justement, toujours cette fameuse effet qui t'étonne et qui étonne tant de la super absorption.
Les marins quantiques.
Voilà, ils l'observent, mais alors eux... Autant James Quash, il l'a fait sur des molécules, eux, ils le font sur les fameux qubits. Hein, c'est ça qui les intéresse. Et de voir comment on peut contrôler, vérifier que l'effet est bien observé. Et après, il y aura toute une phase compliquée, mais qui ne sera pas la plus compliquée par rapport à ce qu'ils font là. Parce que pour l'instant, j'ai parlé que de photons. Mmh. Peut-être que certains de nos...
Mais c'est de la lumière.
Oui, c'est que de la lumière. Je me doute que certains auditeurs, auditrices vont dire bah, « c'est super, bon, en fait, mon téléphone il va juste rayonner. »
Oui, évidemment, c'est pas des électrons.
Voilà,
c'est pas...
faut convertir ensuite cette lumière en électricité. Mais ça, on sait faire, ça s'appelle les cellules solaires. Et déjà, d'ailleurs, dans les applications qui pourraient venir très vite, ce serait d'ajouter ces dispositifs à des panneaux solaires pour en accroître l'efficacité.
Bon, ça ouvre des belles perspectives, hein, cette batterie. J'espère qu'on ne vous a pas perdu. Moi, en tout cas, je suis très content avec mes marins et tes explications. Je m'y retrouve à peu près. Et j'accepte le fait de ne pas comprendre certaines choses et qu'on nous dise, en fait, on l'observe. Donc, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, ça tient la route. Mais on ne sait pas encore ce qui se passe concrètement là-dedans. Une dernière question à te poser, c'est sur tes batteries, on va dire, de qubits, qui pourraient potentiellement avoir donc, plusieurs états en même temps, comment tu t'assures que ta batterie, elle est dans l'état chargé? Tu vois, est-ce que tu la fixes? On le disait, le fait de regarder, d'observer, on va dire, un acteur quantique, ça l'oblige à choisir un état. Comment tu t'assures que des milliers de qubits concentrés, enfin, on va dire, entre eux, sont chargés et comment tu gères derrière leur décharge?
Comment savoir s'ils sont chargés? C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ça, c'est la physique quantique, c'est pratique. Hein. Ça ne tombe pas en panne un atome. Tu vois. C'est pas comme un ascenseur. Donc, s'il est bien préparé et que tu lui envoies des photons, il va les absorber et tu ne les vois plus. Par contre, dans l'état actuel des recherches qui sont menées, il les renvoie tout de suite.
Et oui, donc
il y a la super absorption et la super radiance. Donc il y a ça aussi
à contrôler.
Non, ils n'arrivent pas encore à contrôler, à garder l'énergie, elle est restituée.
C'est plus des tuyaux que des batteries pour l'instant. Hein.
C'est des miroirs en fait. Voilà. J'ai l'impression que ça absorbe, pouf, poum, ça envoie, pouf, poum.
Donc on n'y est pas encore.
Non, on n'y est pas encore.
C'est le mot de la fin, mais je trouve ça intéressant d'avoir rajouté cette petite nuance sur le côté. Effectivement, c'est des batteries qui, pour l'instant, jouent plutôt un côté miroir. Et elles n'ont pas encore cette capacité de stockage qui serait miraculeuse. Hein.
Bah, comme le dit Marco Pollini, le chercheur de la start-up Planckienne, nous sommes dans une phase exploratoire. Mais c'est une phase exploratoire avec un volet industriel en réalité.
Qu'on imagine très bien, hein,
voilà.
Évidemment.
Donc, on est déjà en train d'anticiper, mais c'est le monde étrange et merveilleux de la physique quantique qu'on comprend mal, et les physiciens de quantique en général sont des gens très modestes. Ils reconnaissent qu'ils travaillent sur un sujet complexe qu'ils peuvent constater parfois sans expliquer toujours.
Eh ben, en tout cas, merci Fabrice, j'étais ravi d'explorer ce sujet complexe avec toi. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude dans 10 jours pour envoyer de la science dans tous les sens.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.